depuis Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. Diffusion en français. La voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie au monde.
Bonsoir chers auditeurs, ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. Mutia Hafid a déclaré que les prédicateurs jouent un rôle important dans la lutte contre les jeux d'argent en ligne. Trump menace les BRICS de continuer à effectuer des transactions en dollars américains. Le monde du Kono est de nouveau entré en éruption dimanche matin. Gebiar Nusantara est un événement de promotion culturelle visant à rapprocher l'Indonésie et la Malaisie. Les inondations en Thaïlande entraînent des morts et des centaines de milliards de personnes touchées. Bon, chers auditeurs, voici le journal en complet. La ministre de la Communication et du Numérique, Mutia Hafid, a déclaré que les prédicateurs jouent un rôle important dans les efforts de lutte contre la pratique des jeux d'argent en ligne. Dans un communiqué officiel reçu dimanche à Jakarta, elle a expliqué que ce rôle inclut des aspects religieux, moraux et sociaux. Elle a invité les prédicateurs du Conseil indonésien des ulémas à participer activement aux efforts de lutte contre les jeux d'argent en ligne à travers leurs prédications. Mutia a déclaré que l'espace numérique qui continue de croître est non seulement un lieu de diffusion de contenu positif, mais aussi de contenu négatif, tels que les promotions des jeux d'argent en ligne qui ont un impact négatif sur la vie des gens. Par conséquent, Mutia a invité les prédicateurs à contribuer aux efforts visant à contrecarrer les effets néfastes de la numérisation à travers leurs prédications. Elle a également déclaré que la ministre de la Communication et du Numérique intensifierait ses efforts pour accroître les connaissances numériques des prédicateurs afin de les aider à comprendre les défis et les opportunités de l'espace numérique. Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a menacé samedi d'imposer des droits de douane de 100% aux pays de BRICS s'ils n'annulaient pas leur projet d'utiliser des monnaies alternatives au dollar américain. Cité par Antara à Jakarta via les réseaux sociaux très sociaux, il a déclaré que l'idée selon laquelle les pays BRICS tentaient de s'éloigner du dollar était révolue. Selon lui, les États-Unis demanderont aux pays BRICS de s'engager à ne pas créer de nouvelles monnaies ni à soutenir une autre monnaie pour remplacer le dollar américain. Trump a ajouté que si le BRICS mettait en œuvre ce plan, ce pays serait confronté à des droits de douane de 100% et devrait dire adieu aux ventes de leurs différents produits à l'économie américaine. Il a souligné que tout pays cherchant à remplacer le dollar américain dans le commerce international dira au revoir aux États-Unis. Le poste d'observation du volcan du Kono, ou PGA, dans la région d'Halmahera, du Nord, Maluku du Nord, dimanche matin vers 8h27, hors de l'Indonésie de l'Est est de nouveau entré en éruption, émettant des cendres jusqu'à 1200 mètres au-dessus du sommet de la montagne. Cité par Antara à Jakarta, l'officier de poste de PGA du Kono, Bambang Sugiono, a déclaré que la colonne des cendres observées était de couleur blanche à grise avec une intensité épaisse penchée vers le nord-ouest. Doua a déclaré que cette éruption a été enregistrée avec succès sur un sismographe d'une amplitude de 20 mm et d'une durée de 276,93 secondes depuis le poste du Kono PGA au village de Mamuya, district de Galela. Actuellement, le mont du Kono est toujours au niveau 2 ou en statut d'alerte. Le public, visiteurs ou touristes sont demandés de ne pas se déplacer dans un rayon de 3 km autour du cratère de la montagne. L'ambassade de la République d'Indonésie à Kuala Lumpur a organisé Gebiar Nusantara à Kuala Lumpur en Malaisie, qui est devenu un événement promotionnel ainsi que le renforcement des relations entre l'Indonésie et la Malaisie à travers la culture. Cité par Antara à Jakarta samedi, l'ambassadeur d'Indonésie en Malaisie, Hermono, a expliqué que l'événement était préparé pour promouvoir la culture indonésienne, notamment pour renforcer les relations entre les deux pays à travers la culture. Cette activité, qui a duré 2 jours, du 30 novembre au 1er décembre 2024, a été la première réalisée. Hermono a estimé qu'avec le grand enthousiasme de la communauté, cette activité pourrait être organisée à nouveau l'année prochaine à une plus grande échelle. Gebiar Nusantara présente une variété de saveurs culinaires indonésiennes. Cette activité est également un moyen de promouvoir le tourisme et l'économie créative indonésienne. Gebiar Nusantara est également associé aux activités de jumelage d'entreprises qui rassemblent des acteurs de l'économie créative et aux acheteurs malaisiens potentiels. Au moins 9 victimes sont mortes et des centaines de milliers de personnes ont été touchées par les inondations dans 8 provinces de Thaïlande. Cité par Antara à Jakarta samedi, le département météorologique thaïlandais a déclaré que de fortes pluies avaient provoqué des inondations dans les provinces de Nakhon Sitamarat, Pathalung, Songkhla, Pattani, Yala, Narathiwat, Krabi, Trang et Satun. Jusqu'à présent, plus de 553 000 ménages ont été touchés dans ces 8 provinces. Dans la province de Pathalung, plus de 100 000 foyers ont été touchés dans 557 villages, dont un décès. De plus, 8 décès ont été signalés dans les provinces de Pattani, Yala et Songkhla. Le département météorologique thaïlandais a averti que des fortes pluies sont attendues et pourraient durer jusqu'au début décembre dans les régions du sud du pays. C'est tout le journal d'aujourd'hui. Bonsoir à tous. Voici la mise au point de la semaine dont le titre est les élections régionales simultanées pour accroître les investissements étrangers dans les régions. La Chambre de commerce et d'industrie de Jakarta, ou en indonésien abrégé en KADIN, estime que des élections régionales simultanées pourraient inciter les investisseurs, en particulier les étrangers, à réaliser des investissements en Indonésie. Cité par Antara à Jakarta mercredi, la présidente générale du KADIN de Jakarta, Diana Dewi, a déclaré que les élections simultanées constituaient un élan crucial qui pouvait influencer les décisions d'investissement, notamment celles des investisseurs étrangers. Diana a déclaré que la dynamique des élections régionales a incité les investisseurs étrangers à réagir plus prudemment aux changements politiques. Elle a ajouté que le rôle d'un leader régional était très important car non seulement on dirigeait le gouvernement, mais on créait également un climat d'affaires propice. De cette manière, cela peut encourager la croissance économique et le bien-être communautaire au milieu des nombreux défis auxquels Jakarta est confrontée pour devenir une ville mondiale. Elle espère également que les futurs dirigeants de Jakarta pourront faire croître l'économie et augmenter les opportunités d'emploi pour la communauté. Elle a ajouté que les élections régionales simultanées de 2024 n'auront pas seulement un impact sur les aspects techniques, mais elles auront également une grande influence fondamentalement. Diana espère que les futurs dirigeants seront capables d'éliminer les inégalités dans la société. Par ailleurs, le consul honoraire d'Allemagne, Daniel Dermadi, a estimé que les élections simultanées constituaient un élan pour créer un gouvernement régional solide, fort et stable. Dans un court message adressé à RRI Voice of Indonesia vendredi, il a exprimé son espoir que le projet de coopération entre l'Indonésie et l'Allemagne, déjà en cours, pourront être menés à bien sous le nouveau gouvernement régional. Il espère également que la coopération qui sera explorée à l'avenir entre les gouvernements régionaux et l'Allemagne pourra se concrétiser et réussir. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 1er décembre. On commence par le 1er décembre 1956. Bung Hatta a démissionné de son poste de vice-président. Mohammad Hatta, ou Bung Hatta, a officiellement démissionné de son poste de vice-président de la République d'Indonésie en 1956. Auparavant, en 1955, Bung Hatta avait annoncé que lorsque le Parlement et la circonscription électorale choisie par le peuple auraient été formées, il démissionnerait de son poste de vice-président. Il annonçait son intention de démissionner dans une lettre adressée au président du Parlement de l'époque, M. Sartono. Une copie de la lettre a été envoyée au président Sukarno. Sukarno a tenté d'empêcher cela, mais Bung Hatta est resté ferme. Les résultats de la session du DPR ont finalement permis de répondre à la demande de Hatta. Le samedi 1er décembre 1956, Mohammad Hatta a officiellement mis fin à ses fonctions de vice-président de la République d'Indonésie qu'il avait occupé pendant 11 ans. Le 1er décembre 1959, le système du traité sur l'Antarctique a été signé. Le système du traité sur l'Antarctique est un accord international concernant l'Antarctique. De nombreuses nations veulent gouverner ce continent. C'est pourquoi le traité sur l'Antarctique a été conclu en 1959. Ce traité a été signé par 46 pays. Le traité sur l'Antarctique stipule que l'Antarctique sera utilisé aux fins pacifiques de sorte que tout ce qui concerne l'armée, comme la construction de bases militaires, les jeux de guerre et les essais de tout type d'armes, est interdit dans cet endroit. Ils peuvent également entrer librement dans toute la région de l'Antarctique. Les ressources biologiques de ce lieu seront protégées ensemble. Le 1er décembre 1988, la Journée mondiale de lutte contre le sida a été célébrée pour la première fois. La Journée mondiale de lutte contre le sida, qui tombe le 1er décembre, est célébrée pour sensibiliser la communauté mondiale à l'épidémie de sida provoquée par la propagation du virus VIH. Ce concept a été lancé lors de la réunion des ministres mondiaux de la santé sur les programmes de prévention du sida en 1988. Depuis lors, la Journée mondiale du sida a commencé à être célébrée par les gouvernements, les organisations internationales et les fondations caritatives du monde entier. La Journée mondiale de lutte contre le sida a été inventée pour la première fois en août 1987 par James Ban et Thomas Netter, deux responsables de l'information publique du Programme mondial de lutte contre le sida à l'Organisation mondiale de la santé à Genève, en Suisse. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Terima kasih. won my heart.
Voilà la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4755 kHz. Et voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Mon Indonésie d'aujourd'hui est intitulée « Paramètres initiaux des SEA Games pour le développement des athlètes pour les événements mondiaux ». Le président du Comité olympique indonésien, ou TNO Indonésie, Raja Sabta Oktohari estime que l'événement sportif de niveau de l'Asie du Sud-Est SEA Games n'est pas le seul indicateur pour mesurer les réalisations sportives de l'Indonésie. Selon Oktohari, les SEA Games sont plutôt considérés comme une première référence pour évaluer les progrès des athlètes indonésiens en développement avant d'affronter des événements plus importants tels que les Jeux asiatiques, les championnats du monde et les Jeux olympiques. Otto a expliqué que les SEA Games, qui impliquent 11 pays de la région de l'Asie du Sud-Est, sont certes importantes, mais ne peuvent pas être utilisées comme seule référence pour évaluer les succès des sports indonésiens sur la scène internationale. Aux SEA Games, ou Jeux d'Asie du Sud-Est, l'Indonésie est en concurrence avec les pays de l'ASEAN. Nous ne pouvons pas surestimer les SEA Games car de nombreux objectifs plus importants sont en vue. Par exemple, les Jeux asiatiques qui impliquent davantage de pays ou d'autres événements mondiaux qui ont une portée plus large, a déclaré Oktohari lors de sa réunion à Jakarta jeudi, cité par Antara. Okto a souligné que les SEA Games devraient être utilisés comme un test ou un essai pour tous les athlètes avant de voir si le développement des performances réalisées jusqu'à présent a été réalisé de manière sérieuse et optimale. Selon lui, même si les SEA Games sont un événement important, le classement final ou la position de l'Indonésie aux SEA Games ne peut pas être la seule référence de succès. Concernant les 50 sports qui participeront aux SEA Games de Bangkok 2025, Okto a expliqué que cela est toujours en discussion avec toutes les parties prenantes. Selon lui, les politiques concernant la participation sportive aux événements internationaux seront adaptées aux besoins et au potentiel de chaque sport. Parce que le sport nécessite beaucoup d'argent, l'Indonésie n'a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent sans tenir compte des réalisations qui seront réalisées. Par exemple, les sports axés sur les Jeux olympiques sont certainement différents des sports non olympiques. Tout cela nécessite une gestion spécifique, car chaque branche présente des caractéristiques et des défis différents, a déclaré Okto. C'est tout mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Meskipun ku tak mau kau dekati diriku, namun saat aku buka pintu di hatiku, tiada lagi dirimu, kau menjauh dariku. Mengapa kini kau harus pergi di saat ku telah jatuh hati?
Segalanya mengapa dia tak berpihak pada cinta kita. Oh, hingga kemarauku bersemi, izinkan aku menanti kau buka pintu hatimu kembali. Oh, sayangku tak bisa dibuatmu kecewa. Kau buatku mati rasa meski ku bernyawa. Cinta
luka-luka, luka-luka pergi saja.
Maaf sayangku tak bisa.
Oh
no.
Maaf sayangku tak bisa.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4755 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, Misol est l'une des quatre grandes îles de l'archipel de Raja Ampat en Papouasie de l'Ouest. Cette île se trouve au large de la côte ouest de l'île principale de Papouasie et borde directement la mer de Seram. Le territoire de l'île Misol est constitué de collines, de forêts denses et de mangroves. De plus, cette île de 2034 km² abrite des sites culturels anciens, car ici, un certain nombre de pétroglyphes ont été trouvés sur les parois de grottes de toute l'île, qui ont en moyenne environ 5000 ans. Le panorama maritime de l'île Misol est orné d'amas de roches karstiques avec un écosystème sous-marin assez complet. L'île Misol fait partie du triangle de corail mondial. Il n'est donc pas surprenant que divers poissons d'ornement puissent être trouvés sur cette île. De la beauté sous-marine époustouflante aux étonnantes formations rocheuses karstiques en passant par la riche vie sous-marine, chaque coin de cette île recèle un charme prêt à être visité. L'un des endroits les plus emblématiques de l'île de Misol est le Love Lagoon, ou souvent appelé Laguna Cinta. Ce lieu est situé dans la zone du géosite Karawapop. Comme son nom, cet endroit a une forme unique, comme un cœur, et rend cet endroit parfait pour prendre des photos. Love Lagoon est également un endroit idéal pour se détendre et profiter de la beauté de la nature. En dehors de cela, ici, vous pouvez aussi nager ou simplement faire du kayak. Sur le chemin vers l'île Misol, vous profiterez également de la magnifique vue sur les pierres empilées Fafanlap. Les pierres empilées Fafanlap sont de gros rochers disposés naturellement et situés au milieu de l'océan. Ce phénomène naturel attire non seulement l'attention des touristes, mais devient également un sujet de recherche pour les géologues et les naturalistes. Si vous visitez ici, vous pourrez certainement profiter de l'atmosphère calme en admirant la beauté du coucher de soleil et des formations rocheuses vieilles de plusieurs milliards d'années. Pour rejoindre l'île de Misol, le voyage commence par un vol vers la ville de Soron, qui est la principale porte d'entrée de Raja Ampat. Après avoir arrivé à Soron, continuez vers le port pour prendre un ferry, un hors-bord ou un bateau phénicien jusqu'à l'île de Misol. Cette promenade en mer durera environ 4 à 6 heures, mais il est garanti que vous ne vous ennuierez pas, car en cours de route, vous aurez droit aux vues naturelles de Misol qu'il serait dommage de manquer, notamment une rangée de petites îles et eau claire vert bleuâtre. Chers auditeurs, si vous êtes amateur de tourisme marin, l'île de Misol pourrait être votre choix de destination touristique.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, Parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La Voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
bagaimana aku bisa lupa. Padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia,
bahagiakan dia.
Biar aku ya pura-pura lupa. Biar aku yang pura-pura lupa.
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Bonjour à notre ami d'Algérie, Abdelkader Khalil. Merci beaucoup pour vos chaleureuses félicitations. Je vous apprécie vraiment. Et nous espérons également pour que vous soyez toujours en bonne santé, heureux et prospères. Merci à vous qui nous ont toujours écoutés et restez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. La suite, écoutons la rubrique suivante, l'Indonésie en couleur. L'Indonésie en couleur d'aujourd'hui, dont le titre est « En recherchant les populations d'oiseaux avec tordus, deux étudiants de l'UGM remportent des prix internationaux. » Deux étudiants du programme de troisième cycle de la faculté de biologie de l'université Gadjah Mada, Dudi Nandika et Dwi Agustina, ont participé à la conférence ornithologique du 14 au 17 novembre à Pékin, en Chine. Tous deux ont reçu des prix lors de la conférence à laquelle ont participé 528 délégués de 39 pays, dont 76 universités et 37 instituts de recherche. Cette conférence est l'occasion d'accroître les échanges universitaires entre les pays de la région asiatique en promouvant la recherche et la conservation dans le domaine de l'ornithologie. L'ornithologie est l'étude de la physiologie, de l'évolution et du comportement des oiseaux. Lors d'une conférence initiée par l'Union internationale d'ornithologie et l'Institut de zoologie de l'Académie chinoise des sciences et en collaboration avec la Société internationale de zoologie, la China Ornithological Society et la revue Avian Research, les prix reçus par ces deux étudiants sous la forme du First Prize Poster Award pour Dudi Nandika et du First Prize Presentation Award pour Dwi Agustina. En dehors de cela, tous deux ont reçu la récompense de voyage du comité AOC. Dudi, doctorant de la faculté de biologie de l'UGM, a présenté avec succès sa recherche intitulée « Analyse des données récentes de la communauté d'oiseaux » de guilt d'alimentation en tant que bio-indicateur pour la gestion du parc national de Manusela à Maluku. La recherche menée par Dudi vise à connaître les données sur la population et la composition des espèces d'oiseaux dans le parc national de Manusela, Maluku, qui serviront de base à la gestion de la zone et à la mise à jour des données pour les politiques visant à déterminer le statut d'une espèce d'oiseau. Vient ensuite le deuxième représentant de l'UGM, Dwi Agustina. En étudiant en master de la faculté de biologie de l'UGM, a présenté les résultats de sa recherche intitulée « Aligner les efforts de conservation des kakatoé avec la sagesse coutumière locale de Huaulu sur l'île de Seram, Maluku, Indonésie ». Cette recherche, réalisée par Dwi Agustina, discute du conflit d'intérêts entre le peuple indigène Huaulu des Moluques et le gouvernement car les indigènes Huaulu veulent chasser les cacatoès pour obtenir leurs plumes huppées aux fins traditionnelles. Cependant, cela entre en conflit avec les intérêts de conservation du gouvernement. Doyen de la faculté de biologie UGM, prof Dr. Budi Setiadi Daryono a déclaré que le prix et les résultats de recherche produits par ces deux étudiants devraient apporter des avantages à la société indonésienne et devenir une motivation pour les efforts de recherche et de conservation des oiseaux en Indonésie. Chers auditeurs, voilà la chanson de pop indonésienne. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bon Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia. Cette fois, je parle d'une chanson de Maudy Ayunda. Ayunda Faza Maudia, connue sous le nom de Maudy Ayunda, est une actrice, mannequin, écrivaine et chanteuse indonésienne. Maudy Ayunda a sorti sa nouvelle chanson intitulée Puisi Kota le 25 novembre 2024. Dans cette chanson, Maudy Ayunda collabore avec le légendaire musicien indonésien Iwan Fals. Même si elle n'est sortie que le 25 novembre 2024, cette chanson a en fait été écrite pour la première fois par Maudy le 17 avril 2023. En dehors de cela, cette chanson implique également Simhala Avadana, chanteur du groupe Numata. Puisi Kota raconte des réflexions personnelles sur la vie à Jakarta qui est pleine de contradictions, où les grandes villes offrent de nombreuses opportunités et rêves à certaines personnes, mais d'un autre côté, les grandes villes peuvent aussi faire se sentir petites et seules. Bon, chers auditeurs, voici Maudy Ayunda, dont le titre est Puisi Kota. Bonne écoute!
Dan waktu
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.